Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Mobilisation monstre pour le climat le week-end dernier. Au lendemain d'une manifestation inédite des étudiants, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans les rues en France pour demander des actions contre le réchauffement climatique. C'était la marche du siècle, partiellement soutenue par quelques-uns des gilets jaunes. La bataille pour l'environnement ne se fera pas en un jour et elle est complexe. Pour preuve, les déchets nucléaires, cette bombe à retardement d'une énergie qui par ailleurs se présente comme peu nocive pour l'atmosphère. En Allemagne, où la chancelière a décidé de sortir du nucléaire après la catastrophe de Fukushima, la dernière centrale fermera dans 3 ans, mais il restera 10 000 tonnes de déchets radioactifs. Qu'en faire et où les stocker? C'est tout le problème que doit résoudre une agence nationale chargée de trouver un site d'ici 2031. C'est le reportage à Berlin de Déborah Berlioz.
La Société fédérale pour le stockage définitif a ses bureaux berlinois dans un bel immeuble du quartier de Charlottenburg. Si seules 5 personnes travaillent dans ces petits locaux, le vrai siège est bien plus conséquent. En tout, cette agence publique emploie 2000 personnes. Il faut dire qu'elle a une mission de taille. Créée en 2017, elle doit trouver un site de stockage définitif pour les déchets hautement radioactifs. Stefan Kanitz, ancien député conservateur, siège à la direction.
Pour l'instant, nous récoltons des données géologiques en provenance des 16 Länder et sur la base de ces informations, on identifie quelle région du pays mérite d'être examinée de plus près.
En 2020, l'agence devra publier une liste de sites potentiels pour entreposer les déchets nucléaires. Des recherches plus poussées devraient permettre de choisir une location d'ici à 2031. Le processus n'en est donc qu'à ses débuts. Pourtant, l'État allemand avait déjà un site en vue, une ancienne mine de sel à Gorleben, au sud-est de Hambourg. Les prospections y ont commencé dès 1977 et des fûts y ont déjà été stockés. 1,7 milliard d'euros ont été engloutis dans ce projet. Mais en 2013, les recherches sont mises à l'arrêt. Une décision inévitable selon Stefan Kanitz.
Si Gorleben n'a pas été retenu, c'est notamment parce que les gens avaient l'impression que le site avait été choisi de manière arbitraire. À l'époque, le village était à la frontière avec l'Allemagne de l'Est, dans une zone à faible densité de population. C'est ce qui aurait motivé le choix de Gorleben, et non des critères scientifiques et techniques.
Selon les opposants au projet, le choix de Gorleben était donc purement politique, et certains accusent même les dirigeants de l'époque d'avoir délibérément ignorer des rapports scientifiques. Les associations écologiques, de leur côté, soutiennent que le site n'est pas adapté. Les risques de fuite y seraient trop importants. Au fil des années, Gorleben est ainsi devenu le théâtre de protestations massives. De grandes manifestations y étaient notamment organisées à chaque fois que des déchets retraités à La Hague revenaient en Allemagne. Face à cela, les autorités ont donc décidé de repartir de zéro. Il faut désormais trouver un site dans lequel les déchets pourront être en sécurité pendant 1 million d'années. L'enfouissement en couches géologiques profondes est la seule solution, selon Torben Becker. Il s'occupe des questions nucléaires pour l'association environnementale BUND.
Je ne peux pas construire un entrepôt et dire qu'il va tenir 1 million d'années. Personne ne peut garantir cela. Par contre, si j'étudie la géologie, je peux remonter loin dans le passé et voir comment certaines formations rocheuses se sont comportées sur le très long terme.
Tous les sous-sols de sel, de granit ou d'argile sont donc étudiés. Cependant, les anciennes mines comme Gorleben sont à exclure pour Torben Becker. L'Allemagne a en effet une mauvaise expérience en la matière. Dans les années 60, 47 000 mètres cubes de déchets faiblement et moyennement radioactifs ont été entreposés dans une ancienne mine de sel à Asse. Mais la roche s'est fissurée et 12 000 litres d'eau ruissellent chaque jour sur les parois. Le tout risque de s'effondrer et les nappes phréatiques sont menacées. Résultat, il faut sortir les barils et leur trouver un nouveau site. C'est encore une mission pour la Société fédérale pour le stockage définitif, mais l'agence publique se heurte à de nombreux obstacles. Torben Becker regrette notamment qu'il n'existe pas de données géologiques approfondies pour tout le pays.
Les sols ont été beaucoup plus étudiés dans l'ancienne Allemagne de l'Est, car il y avait une forte pression pour chercher des matières premières. Alors qu'à l'Ouest, cela dépend des régions. On a beaucoup de données en Basse-Saxe, car on y a cherché du gaz, alors que certaines régions ont à peine été étudiées.
Autre problème, de nombreuses données viennent de compagnies minières qui refusent de les dévoiler au nom du secret des affaires. L'État peut les obtenir, mais non les publier. Or, toutes les données disponibles doivent être rendues publiques pour que le choix du site soit entièrement transparent. Pas question ici de répéter l'histoire de Gorleben. Pour Stephen Kanitz, la population doit être impliquée au maximum dans le choix du futur site de stockage.
L'implication des citoyens doit aller au-delà de la simple information. À chaque fois que nous publierons un rapport, nous organiserons des conférences locales ou régionales durant lesquelles les personnes concernées auront la possibilité de poser des questions et des requêtes.
Le processus doit donc inspirer confiance aux citoyens et éviter ainsi des protestations trop massives quand un site sera choisi. Mais le chemin est encore semé d'embûches. Certaines régions font de la résistance. L'année dernière, le gouvernement bavarois a ainsi déclaré que la région n'était pas adaptée pour recevoir des déchets radioactifs. Le dossier de l'atome est donc loin d'être clos.
Et en France, le projet d'un site d'enfouissement couche géologique profonde à Bure, dans l'est du pays, suscite de nombreuses craintes des écologistes, y compris de l'avocate Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. Pour elle, personne n'a encore trouvé de solution viable au problème des déchets nucléaires.
On est parti dans l'aventure nucléaire avec l'assurance, qui est aujourd'hui totalement fausse, que nos grands ingénieurs allaient régler le problème des déchets nucléaires. Ils n'ont rien réglé du tout. Et donc on se retrouve avec un stock de déchets important. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le retraitement. Bon, le retraitement n'a jamais fait disparaître les déchets radioactifs. Le retraitement aboutit à en réduire le volume et à séparer l'uranium, le plutonium et ce qui reste. En fait, pourquoi est-ce qu'on a fait du retraitement en France ? C'est pas parce qu'on voulait réduire le volume des déchets. Par côté des âneries, on a fait du retraitement parce qu'on voulait du plutonium pour la bombe atomique. Il faut bien comprendre que le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont étroitement liés. Ça, c'était dans les années 60, c'est De Gaulle qui avait décidé ça. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire de notre plutonium. Donc le but, c'est plus de faire du plutonium.
Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à saturation des sites qui entreposent les déchets, tant en France qu'en Europe ?
Alors, c'est ce que disent les exploitants du nucléaire, qu'il faut absolument trouver une solution, parce que pour le moment, donc, les déchets sont stockés dans les piscines à côté des réacteurs nucléaires, et pour une grande part, sont stockés à la Hague. Et donc, on cherche d'autres sites de stockage de déchets, d'autant plus que si nous arrivons à démanteler nos centrales nucléaires, il va bien falloir mettre quelque part les déchets, à commencer par les cœurs des réacteurs, qui seront évidemment hautement radioactifs et pour des centaines d'années.
C'est pour cela qu'on développe aujourd'hui ce site d'enfouissement géologique à Bure.
C'est un projet qui est très vieux, puisqu'il a débuté en 1993. Il existait déjà quand j'étais ministre entre 95 et 97. Moi, j'étais très opposée. EDF ne veut entendre parler que de l'enfouissement. Donc, il n'y a eu quasiment aucun investissement qui a été fait pour le stockage en subsurface.
Avec la grande différence, c'est que ce stockage en subsurface, il est réversible. On peut avoir accès à tous les déchets nucléaires, ce qui n'est pas le cas de l'enfouissement géologique.
Ça a un autre avantage, c'est que c'est surveillé. Et que c'est surveillé de manière nécessairement permanente. Tandis que rien ne nous dit que dans 100 ans ou dans 150 ans, on surveillera convenablement Bure, si Bure il y a un jour. Alors, vous savez qu'il y a déjà des lieux de stockage en France. Les déchets à faible radioactivité sont stockés à Soulaine, dans l'Aube. Je vous racontais juste une anecdote, parce que c'est intéressant pour bien comprendre le problème. Lorsqu'on a créé Soulaine, ça devait être dans les années 90, c'était l'idée d'y stocker donc des déchets faiblement radioactifs dans des conteneurs en plomb qui étaient totalement inertes. Et puis, à la fin des années 90, début des années 2000, on s'est rendu compte qu'il y avait des fuites de tritium. Bon. Et aujourd'hui, on se rend compte, et c'est un des problèmes qui est sur la table, qu'il y a des sources qui sont polluées et qui ont des taux de radioactivité pas constamment, mais par moment, tout à fait anormaux. Donc vous voyez, même pour des déchets prétendument inertes, faiblement radioactifs, on a des soucis. Alors on peut imaginer ce que ce sera avec des déchets à haute radioactivité et pour des durées absolument infinies.
Est-ce qu'il y a certains pays qui ont déjà construit un site d'enfouissement géologique qui ne sera plus accessible ?
À ma connaissance, non. Je sais qu'il y en a qui sont en cours de construction, d'autres qui y réfléchissent, mais à ma connaissance, mais elle n'est pas infinie, puis il y a des pays où on ne sait pas trop ce qui se passe en Russie ou en Chine, c'est quand même pas d'une transparence absolue, donc je ne veux pas aller trop loin, mais je ne crois pas.
Comme vous le savez, il va y avoir une consultation nationale sur la question des déchets en France. Est-ce que c'est important que l'opinion soit consultée ?
Ben, c'est déjà important que les gens se rendent compte que le sujet n'est pas réglé. Parce que je pense que dans la pensée de la plupart de nos concitoyens, il n'y a pas de problème de déchets parce qu'il y a le retraitement à la Hague. Et donc, dans l'idée des gens, je pense que retraitement signifie qu'il n'y a plus de problème de déchets. Et c'est évidemment pas vrai.
Mais au-delà de cette solution d'enfouissement géologique en couche profonde ou de stockage en subsurface, est-ce qu'il y a d'autres solutions ou aucune ?
Pour le moment, on n'en a aucune, on ne sait pas quoi en faire. Personne ne sait quoi en faire.
Et comme si le Brexit n'échauffait déjà pas assez les esprits, c'est une autre polémique qui enflamme l'Irlande. Londres cherche en effet un site d'enfouissement de déchets nucléaires en Irlande du Nord, alors que l'île n'utilise aucune énergie nucléaire. Politiquement très incorrect, comme nous l'explique depuis Dublin Julien Lagache.
Attention au sujet explosif, que les Anglais aillent polluer en Angleterre, lance un internaute, tandis que la chanteuse irlandaise Imelda May s'alarme. Sur Twitter, elle poste une photo de l'estuaire de Carlingford Lough, qui marque la frontière sur la côte est de l'île. Au fond, on aperçoit les montagnes de Mourne, côté nord-irlandais. C'est ici que le Royaume-Uni veut jeter ses déchets nucléaires, ajoute l'artiste en commentaire. Royaume-Uni, frontière, Irlande, des termes déjà toxiques en plein débat sur le Brexit. D'ailleurs, aucun des quatre autres sites d'enfouissement potentiel identifiés en Irlande du Nord par l'entreprise britannique d'État RWM n'a autant fait parler de lui. La compagnie se veut pourtant rassurante, il ne s'agit que d'études exploratoires pour un projet à 10 ou 15 ans et rien ne se fera sans un aval politique et l'assentiment des communautés locales. Rien n'y fait, la proximité avec la frontière provoque une levée de boucliers. Une pétition en ligne a rassemblé 20 000 signatures en un mois, d'autant que les zones frontalières nord-irlandaises sont majoritairement nationalistes, autrement dit très hostiles au Brexit et à l'appartenance britannique de l'Irlande du Nord. Or, avec le Brexit, Londres va également quitter l'organisation Euratom, qui gère la coopération et la recherche européenne sur l'énergie nucléaire, et édicte notamment des règles de sécurité en la matière, de quoi inquiéter davantage la population frontalière sur les futures normes britanniques, ainsi que la République d'Irlande, qui pourrait hériter du site d'enfouissement de déchets nucléaires à un jet de pierre de sa frontière. Dublin suit d'ailleurs l'affaire, mais ne commente pas. Quant à l'opinion publique, elle semble avoir déjà tranché. Un tel projet serait un comble sur une île qui s'éclaire et se chauffe au gaz, au charbon, aux énergies renouvelables, mais en aucun cas grâce à l'atome.
Et c'est une polémique du même ordre qui agite nos voisins du Sud. D'un côté, un pays, le Portugal, qui n'a pas de centrale. De l'autre, l'Espagne, qui veut stocker ses déchets à la frontière. Et qui plus est, près d'une centrale, Almaraz, jugée vétuste. Les explications depuis Lisbonne de Marilyn Darcy.
Les Espagnols disposent de la centrale nucléaire d'Almaraz, qui est construite non loin du Tage, fleuve frontière avec le Portugal. En ligne droite, 100 km seulement, sépare la centrale de la première agglomération portugaise. Le stockage des déchets nucléaires dans le périmètre de la centrale en Espagne, près de la frontière, inquiète beaucoup les Portugais. L'entrepôt en subsurface est installé et les premiers conteneurs chargés de déchets radioactifs commencent à être amenés. Il ne s'agit pas d'un site d'enfouissement. Le stockage en subsurface d'Almaraz a été décidé par Madrid, qui s'est bien gardé d'en tenir informé avec transparence le petit Portugal. Mais Lisbonne s'est rebellée et a accusé son puissant voisin de ne pas avoir respecté la directive européenne de 2011 qui oblige les États membres à mener des consultations et à étudier les conséquences des décisions en matière de nucléaire. L'échec des discussions entre Madrid et Lisbonne en 2017 avait contraint le Portugal à déposer plainte auprès de la Commission européenne, une plainte retirée rapidement devant les garanties données par Madrid. En 2018, le nouveau Premier ministre, le socialiste Pedro Sanchez, en Espagne, a donné de nouvelles garanties. Lisbonne se réserve toutefois le droit de reprendre sa plainte en cas de nouveau non-respect du droit communautaire.
Dernier jour pour aller visiter le Salon du Livre à Paris, en plein débat sur le Brexit et à 2 mois et demi des élections européennes. Le Salon avait choisi pour thème l'Europe, l'occasion de demander à quelques lecteurs quelle est leur fiction européenne favorite, qui sont leurs héros européens. Reportage signé Julia Trangeval.
Pour la première fois, le Salon invite tout un continent, l'Europe. Alors finalement, il ne faut pas s'étonner de trouver dans les allées des visiteurs qui sont un continent à eux tout seuls, comme ce retraité, grandi en Belgique, la France au bout du jardin, Monsieur Berlin.
Si je vous disais que ma femme s'appelle Florence, Florence Berlin, vous voyez, ça c'est... C'est l'Europe complète. Hein.
L'Europe, c'est ce qui a guidé ce médecin Massoud Toussi devant un choix de livres européens.
Il y a quelques années, j'ai été invité par l'Agence européenne de médecine pour travailler avec eux. Et un des tests, c'était les questions autour de l'Europe. Et bizarrement, depuis, j'ai l'impression que c'était vraiment le début d'un acte où on voit de plus en plus de foisonnement au niveau Europe, etc. Curieusement, dans quelques jours, l'Agence européenne de médecine va se déplacer de Londres à Amsterdam. Donc tout ça, ça fait titre. Et je regarde justement les livres sur l'Europe pour voir qu'est-ce que les gens et les écrivains pensent de l'avenir de l'Europe.
Quels héros, quels personnages peuvent inspirer un retraité et un médecin dans une Europe en plein questionnement à un peu plus de 2 mois des élections européennes?
Un personnage européen, bon, il y en a beaucoup. Hein. Et les Monnet, Mayer... Paul-Henri Spaak et tous ces gens-là, oui.
Bah écoutez, moi, ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'était l'histoire de Richard Branson. Pour moi, c'est un grand Européen. Tout ça, ça peut inspirer les gens.
Un drôle de mélange des genres, c'est que l'Europe est trop diverse pour être résumée, qu'on parle politique, économie ou littérature. C'est ce qu'explique quelques stands plus loin un bibliothécaire venu de Strasbourg, de la Bibliothèque nationale et universitaire précisément.
J'ai du mal à mettre tout dans un même pot et à secouer et à voir ce qui va ressortir. Il y a des aires culturelles différentes, chacune est absolument passionnante et quand on se sent Européen, on se doit de les connaître... Sinon toutes, d'essayer de les connaître toutes.
Alors que faudrait-il, selon lui, conseiller à un lecteur qui voudrait comprendre la lecture européenne?
Je ne lui proposerai pas un livre. Je lui dirais de lire, par exemple, un roman de Knut Hamsun, de lire peut-être du Goethe, de lire le Don Quichotte de Cervantes, de lire, s'il en est capable, des poésies de Baudelaire, par exemple, ou un roman de Balzac, voilà. En tout cas, je lui recommanderais de bien veiller à chercher à découvrir les différentes aires culturelles qui sont quand même vraiment très importantes.
Pour Lisa Stettmann, libraire à Berlin, c'est un livre néerlandais, Le jour des morts de Sis Nottebohm, qui résume le mieux l'Europe. Histoire d'amour entre un néerlandais et une espagnole dans les rues de Berlin, ville hantée par l'histoire. Une Europe multiple, mais qui pour cette jeune femme s'enracine toujours dans l'histoire franco-allemande.
Mon amour est français. Et mon grand-père encore a été, hélas, dans les troupeaux qui étaient à Cherbourg pour les D-Day. Donc voilà, c'est déjà toute une histoire de famille qui se joue entre 44 et 2019. Donc voilà.
Oui, ça reste une histoire franco-allemande quand même.
Ça reste une histoire franco-allemande quand même. Mais en même temps, ma définition d'une Europe, c'est bien différente à celle qui avait mon grand-père, évidemment.
À côté des incontournables, comme la littérature germanique, il y a des auteurs moins attendus, du Kosovo par exemple. Et l'Europe intéresse le monde de l'édition, même à travers le livre audio. En plein Brexit, Dernière Terre de Clément Rivière raconte le voyage de 4 jeunes cherchant à fuir une France envahie par les zombies et prêts à tout pour rejoindre l'Angleterre.
N'oublie pas, frangin, je serai là, je t'aiderai à traverser la Manche. Ici, tout est clean. Pas de zombies, pas de cadavres à tous les coins de rue, juste des gens, des vrais.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast. Restez à l'écoute de RFI.